Eh bien, bonjour, frères et sœurs. Je vous souhaite à tous une excellente fête des trompettes, car c'est pour cette raison que nous sommes ensemble aujourd'hui, nous sommes réunis pour étudier ce que signifie ce jour, cette fête annuelle qu'a créée l'Éternel pour nous rappeler différentes étapes dans son plan de salut pour l'humanité. Les fêtes de l'Éternel démarque les différentes étapes dans le plan de salut de Dieu, et il y a une certaine chronologie dans les fêtes. La Pâque, qui représente le sacrifice de Jésus-Christ, la fête des pains sans levain, qui représente notre lutte actuelle contre le péché, pour empêcher au péché de revenir dans nos vies. Il y a la fête de la Pentecôte, qui nous rappelle d'autres vérités à propos des prémices, ceux qui sont appelés en avance des autres. Et puis nous arrivons à la prochaine étape, l'étape que nous attendons maintenant, nous attendons cet accomplissement, c'est la fête des trompettes. C'est l'intervention de Dieu dans les affaires de l'humanité à l'échelle mondiale. Dans Lévitique chapitre 23, un des endroits où nous trouvons toutes les fêtes rendues explicites, sont données en liste. Dans Lévitique chapitre 23 et au verset 24, nous lisons à propos de ce jour. Lévitique chapitre 23, verset 24. « Parle aux enfants d'Israël et dis, « Le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. » Au son des trompettes. La trompette en question ici n'est pas une trompette musicale, c'est un instrument de communication. Cette trompette s'appelait le shofar, et c'était, comme j'ai dit, un outil de communication. Ça produisait un son perçant qui pouvait s'entendre au loin. Et cela, on se servait du shofar pour envoyer en particulier des avertissements de danger. Dans Jérémie chapitre 4, par exemple, nous voyons que la trompette, le shofar, était associé à un avertissement de la guerre, d'une attaque militaire contre la nation. Jérémie chapitre 4, verset 19. Jérémie chapitre 4, verset 19. Mes entrailles, je souffre au-dedans de mon cœur. Mon cœur bat, je ne puis me taire, car tu entends, mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre. La trompette, le shofar, était l'équivalent d'une cri de guerre, un avertissement contre un danger écrasant qui risquait de tomber sur la nation, sur les gens qui étaient avertis. C'était le genre de bruit qui faisait suer les gens. On transpirait de nervosité quand on entendait. On sentait battre son cœur dans sa poitrine quand on entendait ce genre de bruit. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une fête des trompettes, des shofars? Pourquoi est-ce que Dieu créerait une fête comme ça, liée à un cri de guerre, à des moments de panique pour les êtres humains? Eh bien, justement, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Car pour comprendre la signification de la fête des trompettes, nous devons nous pencher beaucoup sur le dernier livre dans la Bible, le livre d'Apocalypse. Apocalypse, la révélation que Jésus-Christ a donnée à Jean, montre une série de sept instruments ou de sept révélations. Il y a les sept sceaux qui sont en cours maintenant. Nous sommes dans l'époque des sept sceaux actuellement. Le septième sceau révèle sept trompettes. Et les trompettes représentent le moment quand Dieu va intervenir directement dans les événements humains pour secouer l'humanité. Pour le moment, l'humanité suit son cours, ignorant Dieu, aveuglée, et suivant Satan sans le savoir. Dieu va intervenir, il va secouer le monde pour attirer l'attention des gens et pour les faire prendre conscience de la méchanceté qui règne sur la terre, que Dieu ne supporte pas. Dieu va secouer le monde de manière à attirer personnellement l'attention de chaque être humain. Alors, allons dans Apocalypse chapitre 8 et revoyons la signification de ces trompettes. Dieu nous fait célébrer cette fête chaque année, nous le répétons. Il est bon de revoir de temps en temps quelle est la signification des trompettes. Qu'est-ce que Dieu nous annonce à l'avance par ces sept trompettes? Apocalypse chapitre 8, commençons au verset 1. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Pourquoi ce silence? C'est peut-être pour marquer le fait que quelque chose de vraiment grandiose va arriver par la suite. On peut trouver à travers l'histoire des moments quand il y a une annonce de quelque chose de fracassant qui allait arriver, eh bien les gens s'arrêtaient pendant un moment. Je me souviens quand il y avait les attaques du 11 septembre, je sais exactement où j'étais, et j'étais figé pendant un moment devant la télé de regarder ce qui se passait quand les avions s'écrasaient et à essayer de comprendre la signification de tout cela. C'est souvent le cas quand il y a une déclaration de guerre. Tout le monde s'arrête et on essaie de réfléchir et de comprendre ce qui va suivre. Peut-être que c'est ça la signification ici. Même les anges sont très touchés par la grandeur de ce qui est en train de commencer. Et ils sont silencieux. Il y a un silence au ciel pendant environ une demi-heure. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu et sept trompettes leur furent données. Sept trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, il se tint sur l'autel, et en encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Nos prières sont un peu comme de l'encens qui monte devant Dieu. La fumée des parfums monta avec les prières des saints, et la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. À chaque fois que nous prions que ton royaume vienne, ces prières ne disparaissent pas, Dieu ne les oublie pas. Depuis 2000 ans maintenant, son peuple prie que ton royaume vienne, que ton règne vienne. Et Dieu se rappelle de ces prières. Ces prières ne sont pas sans importance. Et il va se rappeler de toutes ses prières, et ses prières sont un facteur motivant dans tous ces événements qui vont venir pour ouvrir la voie vers un meilleur monde. Maintenant, dans Apocalypse chapitre 6, verset 17, je vous donne la référence, les sept trompettes sont mentionnées comme faisant partie du jour de la colère de Dieu. Quand les trompettes commencent à sonner, c'est une manifestation de la colère de Dieu. Dieu est irrité contre la méchanceté qu'il voit sur la terre. Parfois, les gens qui se moquent de l'idée de Dieu, ils disent « Mais où est le bon Dieu quand ceci ou cela arrive ?» Le fait que Dieu n'intervient pas immédiatement ne veut pas dire que ça le laisse froid. Dieu est irrité, il est en colère contre la méchanceté des êtres humains qui se font souffrir les uns les autres, qui s'oppriment les uns les autres. La cruauté et la guerre, la malhonnêteté, l'immoralité, toutes ces choses dérangent notre Père Céleste. Et il ne laissera pas cela impuni à tout jamais. Il est patient, mais quand les trompettes commencent à sonner, ça marque la fin de la patience de l'Éternel. Verset 6. Les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Pas seulement l'herbe maintenant, mais un tiers des plantes, un tiers des plantes alimentaires, des blés, etc. Donc Dieu commence à retirer la nourriture. C'est Dieu qui nous donne tout ce qui nous est nécessaire pour rester en vie, la nourriture, l'eau à boire, l'air à respirer. Et là, Dieu commence à reprendre une partie de ce qu'il a si généreusement donné à l'humanité. Verset 8, le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne, embrasée par le feu, fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des navires fut détruit. Le tiers de la mer devient comme du sang. Le sang coagule. Le sang se fige. si c'est vraiment comme du sang, ça va commencer à sentir mauvais très rapidement. Nous pouvons imaginer que ça va pourrir avant très longtemps, ça va sentir la puanteur de ce sang coagulé couvrirait toute la terre. Et évidemment, des navires ne peuvent pas fonctionner dans une semi-liquide aussi visqueux que cela, et ces navires seront détruits, ou par action de ce sang, ou par une autre action. Mais apparemment, c'est lié au fait que les eaux de la mer, une bonne partie, se transforment en sang. Poursuivons, verset 10. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile, ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'ils étaient devenus amers. L'eau devient empoisonnée. Le tiers des fleuves, le tiers de toutes les sources d'eau deviennent nocives. On ne peut pas le boire sans mourir. Nous ne pouvons pas vivre très longtemps sans eau. La plupart d'entre nous, du moins dans l'Occident, nous ne nous privons pas d'eau. Il y a toujours de l'eau disponible pour nous. Le seul moment quand nous avons soif pendant très longtemps, c'est si nous choisissons de le faire, au moment d'un jeûne, par exemple. Mais on ne peut pas vivre très longtemps sans eau. Si un tiers des sources d'eau potable disparaissent de la terre, eh bien, une grande partie de la routine journalière des gens serait d'aller chercher de l'eau. Moi, je vois ça dans les pays en voie du développement. C'est une grande partie de la journée d'aller porter de l'eau pour boire, pour faire la cuisine, pour se laver, etc. Ces versets indiquent qu'il y aura des millions de personnes qui vont devoir se déplacer à la recherche d'eau potable, parce qu'on ne peut pas vivre très longtemps sans cette eau-là. On imagine des migrations de masse de gens qui quittent chez eux, là où il n'y a plus rien à boire comme eau, et ils vont devoir se déplacer. Il y aura des réfugiés d'eau qui vont aller à la recherche d'eau potable. Verset 12. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci, le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Les cieux sont blessés, détraqués, si vous voulez, obscurcis. Quand nous sommes enfants, nous avons assez souvent peur du noir. Moi, je me souviens d'avoir eu peur du noir. J'aimais pas quand on fermait la lumière dans ma chambre et je devais me coucher. C'est la peur de l'inconnu, de ne pas savoir ce qui est là, de ne pas pouvoir voir ce qui nous entoure. En tant qu'adultes, nous sommes assez souvent, nous n'en avons plus peur du noir quand c'est naturel. Mais si c'est une noirceur qui n'est pas naturelle, une éclipse solaire, par exemple, ou quelque chose qui n'est pas normal, même une grosse tempête, quand au milieu de la journée, le ciel devient tout noir, eh bien, ça fait peur, ça dérange, on a des frissons, parfois. Mais imaginez si c'est la Terre entière qui subit cela. Le jour, il fait sombre, la nuit, il fait vraiment, vraiment noir, et on n'arrive plus à voir. Cette trompette-là sera très effrayant pour les habitants de la terre. Verset 13. Je regardai, j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de trompette que les trois anges vont faire retentir. » Nous arrivons maintenant à trois trompettes qui sont encore plus graves que les précédentes, à tel point qu'elles sont appelées des malheurs. Et ça veut dire de la détresse profonde, la misère, comme de la douleur. Ce sont des significations du mot grec qui est traduit par malheur ici. Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de trompette que les trois anges vont faire retentir. Nous poursuivons au chapitre 9. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir contre des scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois, et le tourment qu'ils causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or, et leur visage était comme un visage d'homme. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femme, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues armées de dards comme les scorpions, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Ça, c'est le premier malheur. Décortiquons un petit peu ce que nous avons lu dans ces premiers versets du chapitre 9. Sortant de l'abîme. L'abîme est un lieu d'emprisonnement, à la fois pour les anges déchus et pour la puissance de la bête. Cet grand chef militaire, politico-militaire, mentionné en Apocalypse, qui régnera sur une bonne partie de la terre au temps de la fin, eh bien, symboliquement, son pouvoir est retenu dans cet abîme également. C'est-à-dire, Dieu met des limites à son pouvoir jusqu'au moment où il doit être libéré. Et si vous voulez comparer, regardez Apocalypse chapitre 17, versets 8 à 14. Donc, cet abîme, c'est un lieu où ils étaient retenus. Maintenant, la clé de l'abîme a été donnée et ces armes terrifiantes peuvent sortir. Il s'agit, cette grande fumée que nous voyons au verset 2, très certainement d'une étape majeure dans le développement du Saint-Empire romain germanique qui va renaître peu de temps avant le retour de Jésus-Christ. Il y aura une grande production militaire à ce moment-là, en préparation pour les grandes guerres dont nous lirons tout à l'heure. Donc, la fumée monte de l'abîme, la fumée d'une grande fournaise, et le sol et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. La pollution sera apparemment suffisamment importante qu'on aura du mal à voir le ciel. Et apparemment, ce que nous avons ici au verset 3, ce sont des nouvelles armes de guerre. Ils vont être utilisés contre les hommes, contre leurs ennemis, et ils vont essayer de les utiliser contre Jésus-Christ à son retour. Il y aura une opposition ouverte contre Jésus-Christ à son retour. Mais ils vont faire attention aux plantes, nous lisons au verset 4. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Le tiers en a déjà disparu. Il y aura la famine qui va planer sur la planète à ce moment-là. Même au milieu d'une guerre terrifiante, au milieu de grands mouvements militaires, eh bien, on va donner des ordres aux soldats, faites attention à toute herbe verte. Il faut ménager ce qui reste de ce qui nous apporte de la nourriture à manger. Ils ne vont pas vouloir endommager les plantes qu'ils voient. Et Dieu étend sa protection sur les siens, nous lisons aussi au verset 4. Il pouvait seulement faire du mal aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Dieu est en train de protéger son peuple de ces misères qui tombent sur la terre. Ceux qui ne sont pas protégés par Dieu, eh bien, ils peuvent subir ces grandes douleurs comme les douleurs d'un scorpion. Au verset 5, il est question ça pique comme un scorpion, le tourment que cause un scorpion, et ça va durer pendant 5 mois. est-ce que ça peut être une arme chimique ou une arme bactériologique qui serait destinée à estropier, à paralyser, à immobiliser les hommes? Eh bien, les armées modernes préfèrent ce genre d'arme-là, parce que quand vous immobilisez un soldat, eh bien, deux ou trois autres doivent arrêter de se battre pour s'occuper de leur camarade qui est handicapé ou blessé. Ça, c'est la doctrine militaire moderne. Et peut-être que c'est ça qui jouera un rôle ici. De nombreuses mines terrestres sont conçues, non pas pour tuer, mais simplement pour blesser grièvement. Et là, on est obligé de prêter deux ou trois autres soldats pour s'occuper de la personne. Est-ce que ça serait une sorte d'arme destinée à causer de l'agonie à ceux qui sont visés sans les tuer? C'est pas difficile à imaginer que les hommes auraient cette pensée. En tout cas, j'étais piqué par un scorpion quand j'avais aux environs de 11 ans, et je m'en souviens très bien encore. Au Missouri, là où habitaient mes grands-parents, il y avait beaucoup de scorpions, et j'ai aidé mon grand-père dans un puits. À un moment donné, on était dans un puits, dans un trou, dans le sol, et un scorpion m'a piqué au doigt, et le doigt a gonflé, et j'avais déjà été piqué par des abeilles, par des guêpes, et ça faisait mal, mais rien à comparer avec la piqûre de ce scorpion. Et si c'est à cela que les gens seront atteints, eh bien, ça va être une chose extrêmement grave, et ça fera, encore une fois, ça fera très peur. Ces armes, quand on voit la description qui est donnée, étonnamment comme des hélicoptères, n'est-ce pas? Est-ce que les hélicoptères, quelque chose comme un hélicoptère, serait le moyen de d'étendre cette description, cette destruction plutôt, de propager une arme chimique ou une arme biologique sur les gens qui créeraient toute cette misère? C'est peut-être le cas, c'est peut-être ça que nous voyons ici. Celui qui est derrière tout cela est appelé Abaddon et Apollyon. Abaddon en hébreu veut dire destruction, ruine, tombe, la mort. Et Apollyon en grec veut dire l'exterminateur, le destructeur. Ce sont des noms de Satan, le diable. Satan est derrière toute cette souffrance et cette destruction. Il prend plaisir à faire souffrir les êtres humains. Et il réussit dans une bonne partie de la terre aujourd'hui. Elles avaient, verset 11, sur elle comme roi, l'ange de l'abîme nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. C'est Satan qui dirige tout cela. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore deux malheurs après cela. Le sixième ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel dehors qui est devant Dieu. Et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate, et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. C'est intéressant qu'apparemment Dieu a décidé des années à l'avance quand sera le moment. Dieu suit de près l'accomplissement de son plan et chaque étape doit être franchie selon le plan que Dieu a établi. Et ce sera le cas. Dieu a tout cela en main. Il a décidé déjà longtemps à l'avance du moment exact quand cette malheur doit s'étendre sur la terre. C'est la libération d'une grande armée qui va tuer le tiers des hommes. Le tiers de la population de la terre sera tué par cette armée. Verset 16. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. C'est une armée de 200 millions d'hommes. 200 millions d'hommes. Ça va être une grande guerre, une très grande guerre, plus grande que le monde n'en a jamais connue jusqu'alors et n'en connaîtra jamais, sans doute. Et ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche ils sortaient du feu, de la fumée et du soufre. est-ce que ça serait une sorte de canon ou une arme similaire à cela qui n'est pas encore complètement développée. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Ça veut dire 3 milliards de personnes, plus ou moins. 3 milliards de personnes, peut-être même plus, hein, si la population de la Terre continue à augmenter. Qu'est-ce qui pourrait tuer autant de gens? 3 milliards de personnes. Les chiffres nous dépassent. Qu'est-ce qui pourrait tuer autant de gens? Ça doit être une arme de destruction massive, ça c'est clair. Mais quoi exactement? Nous ne savons pas. Ça pourrait être... C'est une combinaison, nous voyons là, de ces trois choses. Le tiers des hommes fut tué par le feu, la fumée et par le soufre. Donc une fumée peut être toxique, arme chimique, arme bactériologique. Il faudra que ce soit quelque chose d'extrêmement dangereux de pouvoir tuer autant de personnes en peu de temps. Verset 19. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'elles faisaient du mal. Moyen de dispersion, autre chose, nous essayons de comprendre à travers ces descriptions. Et maintenant, versets 20 et 21, nous avons un indice qui indique pourquoi Dieu doit frapper si fort, pourquoi les hommes doivent tellement souffrir à cette époque. Les autres hommes, qui ne furent pas tués par ces fléaux, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur débauche, ni de leur vol. La méchanceté de l'humanité sera si grande que même quand Dieu frappe fort comme ça, ou permette que Satan frappe fort comme ça, eh bien les hommes refusent de se repentir. Ils refusent de changer de voie, de se soumettre à leur Créateur. Dieu veut que l'humanité se repente, que les hommes et les femmes s'humilient devant sa puissance et sa bonté et sa grandeur. Et pourtant, les hommes et les femmes refuseront de le faire, jusqu'à là, jusqu'à ce point-là. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, de leurs enchantements, ni de leur débauche, ni de leur vol. La vie continue comme ça a toujours été, dans sa grande méchanceté. Maintenant, au chapitre 10, nous avons un encart qui n'est pas dans la chronologie que nous sommes en train de lire ici. Au chapitre 11, nous avons la description des deux témoins et leur œuvre. Apparemment, ils vont être actifs au milieu de cette période. Ça sera la guerre mondiale et les deux témoins seront à Jérusalem en train d'accomplir leur mission, de prêcher, d'être des témoins de ce que Dieu est en train de faire, qu'il faut se repentir, que c'est Dieu qui frappe maintenant et que les gens doivent se repentir s'ils ne veulent pas être détruits. Mais nous allons voir, ils vont pour la plupart refuser. Pour reprendre le fil chronologique de ce que nous sommes en train de lire ici, nous devons avancer jusqu'au chapitre 11, verset 14. Alors, avançons jusqu'au chapitre 11, verset 14, et poursuivons le fil conducteur ici. Le second malheur est passé, voici le troisième malheur vient bientôt. Le septième ange sonna de la trompette, il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles ». La septième trompette, la troisième malheur, c'est la septième trompette. Et souvent, on pense à la septième trompette, on pense au retour de Christ, ça c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Mais la septième trompette marque plus que le retour de Jésus-Christ. Cela marque le retour de Jésus-Christ, mais ça marque aussi autre chose, et nous allons lire à propos de ça dans un instant. Le retour de Jésus-Christ, le royaume du monde maintenant est donné au Christ, au Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Si vous n'avez pas dans les marges de votre Bible des passages parallèles, je vous encourage à écrire dans les marges de votre Bible 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52, 1 Corinthiens 15, verset 52, et aussi 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, où il est question du retour de Jésus-Christ à la dernière trompette. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y a à la septième trompette. Il y a autre chose également. Chapitre 11, verset 16. Les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, ta colère est venue. » Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Alors, ce que nous voyons ici, c'est que c'est le moment quand Dieu va intervenir. C'est le moment de sa colère. Dieu est en colère, comme j'ai dit, contre les méchancetés pratiquées par les êtres humains, mais le temps de sa colère approche maintenant, dans la chronologie que nous voyons ici en Apocalypse. Maintenant, les chapitres 12 à 14 sont encore des chapitres en quart, des médaillons insérés au milieu de cette chronologie, qui n'en font pas partie. Donc, nous sommes obligés d'avancer encore en Apocalypse pour reprendre le fil des trompettes. Chapitre 15, verset 1. Chapitre 15, verset 1. « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, sept anges qui tenaient les sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. » La septième trompette marque le retour de Jésus-Christ sur la terre, mais la septième trompette représente également ou ouvre les sept derniers fléaux. La colère de Dieu mentionnée au chapitre 11. Sa colère approche au moment du retour de Jésus-Christ maintenant par en déversant ces sept coupes, les coupes des fléaux de l'Éternel, eh bien la colère de Dieu va s'accomplir. Maintenant, les choses doivent commencer à se produire et à s'accomplir très rapidement. Parce que ces fléaux sont si sévères qu'ils ne peuvent durer très longtemps, des mois ou des années, comme précédemment, certains des trompettes, parce que il n'y aurait pas de survivants du tout. La vie humaine ne pourrait pas continuer sur la terre. Alors, lisons à propos de ces coupes, les sept fléaux, les derniers. Par eux s'accomplit la colère de Dieu. Chapitre 16, verset 1. J'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges, « Allez verser sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Une maladie douloureuse, encore de la douleur. Nous craignons probablement plus qu'autre chose la douleur. J'ai déjà discuté avec des gens qui ont dit « j'ai pas tellement peur de mourir, mais ça risque de faire mal à la fin, et ça je veux pas, souffrir ». Nous craignons la douleur, et Dieu se sert de la douleur pour attirer l'attention des rebelles qui sont sur la terre. Verset 3, le second versa sa coupe dans la mer. Et il devint du sang comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Pas seulement, le tiers de la mer maintenant, qui devient comme du sang, mais maintenant c'est toutes les mers qui deviennent comme le sang d'un mort, qui est déjà coagulé, qui est semi-liquide, si on veut, semi-solide. La mer, les mers deviendront comme cela. Et sans les mers, la vie humaine ne peut plus continuer pendant très longtemps. Ce sont les océans qui produisent la plus grande partie de l'oxygène que nous respirons. Et sans les mers, l'humanité serait condamnée. Continuons au verset 4. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils le méritent. » J'entendis un autre ange qui de l'autel disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Maintenant, c'est toute l'eau douce, toute l'eau potable disparaît, rien à voir. Maintenant, cela signifie que la vie physique ne pourrait durer que quelques jours de plus, si cela se passait comme cela. Est-ce que l'eau en bouteille qu'on a en réserve, peut-être que ça ne se transformera pas en sang, mais pour la plupart des gens, ils n'auraient des réserves que pour quelques jours, tout au plus. Et alors, après cela, ça serait une soif grandissante, et finalement, si le temps continuait suffisamment, ça serait la mort par la soif. Dieu est juste, et les anges expliquent sa justice ici. Il est juste. Il est patient, mais sa patience a des limites. Et ici, la patience de Dieu prend fin. Et il donne aux gens ce qu'ils méritent. La plupart du temps, Dieu ne donne pas aux gens ce qu'ils méritent. Nous méritons tous la mort, mais nous ne mourrons pas tous. Il y a des accidents, il y a des maladies, oui. Mais la plupart des gens qui sont pécheurs, qui méritent la mort, ils ne meurent pas. Ils vivent leur vie normalement jusque dans leur vieillesse. Mais là, les anges disent, c'est juste, Seigneur. Parce qu'ils ont versé le sang de tes serviteurs depuis le début. Maintenant, il devrait avoir du sang à boire. Dieu est patient, mais il est aussi juste. Et le temps viendra quand la patience de Dieu prendra fin. Verset 8. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Ils refusent de nouveau. Ils sont brûlés par le feu, le soleil. Alors apparemment, l'atmosphère devient plus mince, plus claire, et le soleil, la chaleur du soleil, les rayons du soleil peuvent brûler. Nous sommes beaucoup protégés par notre atmosphère. Mais là, apparemment, Dieu va l'amoindrir, un amincissement de l'atmosphère, la couche d'ozone peut-être qui va disparaître, et la déshydratation viendrait très rapidement. Les gens seront brûlés par le soleil et ils n'auront rien à boire, pas d'eau à boire. Et quelle est leur réaction? Eh bien, les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Ils refusent. Ils sont entêtés. On voit la méchanceté et l'entêtement des êtres humains à suivre leur propre voie et à refuser à coopérer et à se soumettre devant l'Éternel. Verset 10. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, les hommes se mordaient la langue de douleur, et encore une fois leur réaction, ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Non seulement la pénombre maintenant, mais sur le trône de la bête, là où il a son trône, l'obscurité complète. On se demande si le lieu de son trône ne serait pas la ville de Rome, qui est comparée à Babylone, parfois, dans le Nouveau Testament. L'obscurité complète, en Europe, peut-être, certainement là où la bête a son trône. Mais toujours pas de repentir. Toujours pas de repentir, même dans ces conditions-là. Verset 12. Le sixième versa sa coupe, sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, dit Dieu, Jésus-Christ. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Avertissement au milieu de ce récit de ces événements fracassants qui vont arriver. Donc, ces esprits de démons qui séduisent les gens, qui leur donnent confiance, qui vont gagner, qui vont pouvoir gagner contre Dieu, eh bien, ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon, c'est-à-dire la vallée de Megiddo. La vallée de Megiddo, c'est une plaine, une grande plaine, au nord de Jérusalem, et c'est à peu près le seul endroit où on pourrait organiser une armée de la taille dont nous parlons, des centaines de millions de personnes, des dizaines de millions d'hommes en armes, pour pouvoir les organiser, les mettre en rang, etc. Eh bien, il faudra une plaine. Autour de Jérusalem, ce n'est pas possible, c'est très montagneux, il y a des vallées sont escarpées, sont profondes et pas très larges, très difficile d'organiser son armée dans ces contrées-là. Mais la vallée de Megiddo, c'est simple. Là, c'est une vaste vallée très large. Et c'est intéressant de noter que autour de Megiddo, c'est l'endroit dans le monde où nous avons le premier récit écrit d'une bataille. La première bataille historique, c'est-à-dire où nous avons un récit écrit à propos de cette bataille, a eu lieu autour de Megiddo. Pharaon monté pour mettre fin à une rébellion contre son autorité. Nous avons le récit de cette bataille. Première bataille dans l'histoire, là. Dernière grande bataille avant l'établissement du royaume de Dieu sur la terre, dans le même endroit. Et en fait, si on calcule le nombre de guerres qui ont eu lieu, de batailles plutôt, le nombre de batailles qui ont eu lieu, il y a eu le plus de batailles dans les environs de Megiddo que dans n'importe quelle autre ville du monde. Point de vue histoire, il y a plus de 10 grandes batailles qui ont eu lieu juste dans les environs là de Megiddo. Et des livres, j'ai un livre qui explique cela, l'histoire de Megiddo et comment c'était vraiment le lieu le plus baigné dans le sang de l'histoire de l'humanité. C'est normal que ce soit un lieu de rassemblement pour cette bataille. Maintenant, on dit souvent la bataille d'Armageddon comme si la bataille va avoir lieu dans la vallée de Megiddo. Et en fait, ce n'est pas ce que la Bible explique. C'est le lieu de rassemblement, la vallée de Megiddo, et puis ils vont faire les 70-100 kilomètres pour monter à Jérusalem afin de se battre contre Jésus-Christ. Ses pieds vont se poser sur la montagne des Oliviers. C'est là où il va revenir. Et cette armée organisée sur la plaine de Megiddo, va ensuite marcher sur Jérusalem. Maintenant, nous sommes arrivés au verset 17. Le septième versa sa coupe dans l'air. Il en sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, « C'en est fait. » C'est assez maintenant. Maintenant, on va mettre fin à tout cela. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Quand on étudie l'histoire, on voit qu'il y en a eu de terribles tremblements de terre de par le passé, qui ont tué des dizaines de milliers jusqu'à des centaines de milliers de personnes. Mais là, ça va être plus grand encore. Le plus grand tremblement de terre que la terre a jamais vu. La grande ville fut divisée en trois parties. Les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la Grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. À cause de ce tremblement de terre, toutes les îles s'enfuirent. Il y a des îles qui vont disparaître, qui vont couler sous les vagues. Toutes les îles s'enfuirent. Les montagnes ne furent pas retrouvées. Tremblement de terre si grave que même des hautes montagnes vont tomber, vont être peut-être aplaties ou près d'aplaties. Et une grosse grêle, dont les grelons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes. Réaction des hommes? Les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. grêle d'une violence inimaginable. Nous sommes étonnés de la force de certaines éruptions volcaniques que nous voyons parfois dans les documentaires qui les expliquent. Nous sommes étonnés par la force des ouragans qui peuvent déraciner de grands arbres par la force de leur vent. Mais rien de ce qui s'est produit jusqu'à ce moment-là ne pourra être comparé avec ce tremblement de terre-là. Et apparemment, c'est avec cela que Dieu va tuer ceux qui refuseront, ceux qui vont blasphémer Dieu, et bien finalement, ils vont être détruits par ces différents aspects des fléaux que Dieu fait tomber sur la terre. Rien de ce qui est arrivé jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, ne pourra être comparé avec la gravité de ce tremblement de terre-là. Et puis, chapitre 19, verset 1, puisque nous devons sauter par-dessus quelques chapitres encore, chapitres 17 et 18. Puis nous arrivons au chapitre 19, verset 1. Apocalypse 19, verset 1. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche, la fausse religion, la fausse église. Il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. » Symboliquement, la fumée de la destruction de ces villes rebelles, ces grandes villes rebelles, eh bien, le souvenir de cette fumée qui monte ne périra jamais. Cette fumée va monter dans nos souvenirs collectifs au siècle des siècles. Finalement, il n'y a plus de résistance. Verset 4. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia ». Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands ». Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros os, et comme un bruit de fort coup de tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Enfin, la résistance contre Dieu cesse. Toute l'humanité se soumettra à Jésus-Christ et à Dieu le Père. Et il viendra à ce moment-là une grande célébration de victoire pour ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui ont été appelés et choisis. Le mariage de l'agneau aura lieu à ce moment-là. Voilà, ça c'est l'histoire principale du livre de l'Apocalypse. Cette incroyable série d'événements qui représente l'intervention de Dieu pour secouer l'humanité au point où finalement elle va se soumettre à son Créateur. Ces événements qui sont expliqués pour nous de manière imagée, on peut imaginer que Jean luttait un peu pour décrire des choses qu'il voyait quand il n'avait pas le vocabulaire pour dire exactement ce que c'était, il le comparait à des choses qu'il connaissait, mais tout cela, c'est Dieu qui a fait préserver cela pour nous pour que nous puissions savoir qu'il va intervenir, que sa patience prendra fin, et que il est très important pour nous de lui rester fidèle, afin de pouvoir échapper à ces choses-là, et d'avoir part à la grande libération que Dieu va opérer sur la terre. Je sais que nous voulons tous avoir la protection divine pendant ces moments terribles, et nous voulons aussi être là pour voir le triomphe de Dieu et de ses enfants. Imaginez cet événement grandiose. Nous voulons être là, frères et sœurs. Voilà pourquoi il est important de voir et de revoir ces choses, ces événements de temps en temps, pour raviver en nous notre désir d'y être. notre désir ardent d'être là et d'être présent quand ces choses seront finalement, ces prophéties seront accomplies. Voilà pourquoi nous célébrons la fête des trompettes d'année en année. Voilà pourquoi nous sommes assemblés aujourd'hui, pour avoir le rappel que Jésus-Christ va revenir, mais que ce n'est pas tout ce qu'il y a à voir dans les trompettes. Dieu va intervenir de manière puissante afin de faire plier le genou à son Fils de toute l'humanité. Et je pense qu'une bonne conclusion pour nous aujourd'hui, à la fin de ce sermon, c'est de relire ce que nous avons lu dans Apocalypse chapitre 16, verset 15. Apocalypse chapitre 16, verset 15. Car ces paroles, frères et sœurs, s'adressent à vous et à moi. Voici, dit Jésus-Christ, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements sont de bonnes œuvres, une bonne conduite, qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Frères et sœurs, à la lecture de ce que Dieu a préservé pour nous dans le livre d'Apocalypse, qui nous fait lire et relire lors de la fête des trompettes, comment pourrions-nous faire autrement que de garder nos vêtements spirituels afin de ne pas marcher nus et de pouvoir recevoir la grande récompense que Dieu réserve pour nous.